Alléluia. En pensant au fait que j'allais prêcher le dimanche 27, ce qu'on voit sur le... On a un planning, là, un agenda, et en pensant à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé, à un moment donné, que c'était... donc dimanche 25, ce serait le dernier dimanche de l'année. Le dernier dimanche de l'année. Dernier culte de l'année. Et je me disais, qu'est-ce que le Seigneur aura à me dire pour ce dernier dimanche, dernier culte de l'année 2015. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 8. Zacharie, chapitre 8. Et nous lirons les versets 9 à 13. Zacharie, chapitre 8, versets 9 à 13. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, il parle au peuple d'Israël, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction, ne craignez pas. Et que vos mains se fortifient. Amen. Avez-vous remarqué comment commence et comment termine ce passage que nous avons lu ? Verset 9 commence comme cela, ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains. Et il termine, regardez la fin du verset 13, ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Alors, ça aurait été un bon message qu'on aurait pu la partager ensemble. Surtout que la semaine dernière, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, nous avons parlé de la main forte de Dieu. Alors là, on aurait pu parler de nos mains à nous de se fortifier. Mais ce qui est resté sur mon cœur et ce qui a retenu mon attention, c'est la fin aussi du verset 13, mais juste avant, quand il dit « Je vous sauverai et vous serez en bénédiction ». Vous serez en bénédiction. Dieu parle, là il utilise le futur. Vous serez en bénédiction. Et là j'ai compris. J'ai compris pour ce message, ce dernier culte d'année 2015. Il y a une projection sur 2016. Vous serez en bénédiction en 2016. De même, il parle au peuple d'Israël qui ne l'avait pas toujours été. Il dit, vous serez en bénédiction. Ça m'a fait penser à quelqu'un, quand Dieu s'adresse à eux, ça m'a fait penser à un homme, à Abraham. Regardez avec moi dans Genèse, Genèse chapitre 12, qui a vécu quelque chose de similaire. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Ce titre-là qui a été donné, vous serez en bénédiction. Là, il s'adresse à Abraham et il lui dit, tu seras, il a cette promesse, il lui dit, tu seras une source de bénédiction. La vision, on le voit là, la vision que Dieu a de la bénédiction, on voit que c'est une vision à grande échelle, c'est une vision globale. Elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus étendue que la nôtre. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas à ma seule personne. Je suis béni, du coup, c'est pour moi. On va le voir. La vision de Dieu, elle est plus étendue que celle. La bénédiction que je t'accorderai servira aux autres aussi. Je te bénirai, il lui dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Sauf que, sur le départ, les choses ne vont pas se passer comme prévu par rapport à Abraham. On le voit dans la suite du texte, il va y avoir une famine. Il va y avoir une famine et du coup, donc ils vont s'en aller en Égypte avec sa femme. Et arrivant en Égypte, du coup, Abraham va dire à sa femme, il va dire, je sais que tu es une femme qui est belle, de figure, etc. Et quand les Égyptiens vont te voir, ils vont vouloir te prendre. Ils vont dire, ah, c'est sa femme, et ils vont vouloir me tuer. Alors, il va lui dire, alors, quand on arrivera là-bas, tu diras que tu es ma sœur. Tu diras que tu es ma sœur. Et c'est ce qui va se passer. Regardez le verset 14 de Genèse 12. Verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Verset 17. Mais, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Ils arrivent là. Et ce qui se passe, c'est sûr, Abraham, on le voit, Abraham, il est bien. On lui offre des as, des bœufs, des ânes, etc., toutes sortes de choses, des servants. Il est bien. Mais vous avez vu le verset 17, comment il commence? Par un mot, mais. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon à cause de cela. D'Abraham, il n'y a pas un autre fautif. Il arrive dans un endroit, dans cet endroit, et les plaies s'abattent sur les habitants. Moi, je trouve qu'il y a mieux comme bénédiction. Je trouve qu'il y a mieux comme bénédiction. Et regardez la suite, verset 18. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Va-t'en de là. Moi, j'ai une autre image que cela de la bénédiction. Ou de quelqu'un qui est en bénédiction. J'ai noté, si une personne apporte la bénédiction, je crois que on ne voudra pas que la personne s'en aille. Si quelqu'un vraiment me bénit, etc., mais je voudrais pas que la personne s'en aille. Au contraire, qu'il reste. Regardez avec Jésus quand il marche là avec les deux disciples d'Emmaüs et que ils ne remarquent pas que c'était Jésus, etc. Et ils cheminent. Quand ils vont arriver vers la maison là. Il est dit que Jésus voulut aller plus loin. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont lui dire quoi? Non, reste avec nous, viens avec nous. Parce que Jésus avait été en bénédiction. Il les avait accompagnés. Là, il les avait écoutés. Il leur avait parlé. Il avait réchauffé le cœur. Bien, ils voulaient pas qu'ils s'en aillent. Bien sûr, quand il y a la bénédiction, on voudra le retenir ou la retenir. Et là, c'est tout l'inverse. Dans un premier temps, Abraham a plutôt été en malédiction qu'en bénédiction. Les plaies se sont abattues sur les Égyptiens. Par contre, ce que je veux, c'est qu'il y a un autre épisode au chapitre 20. Là, ça va se passer un petit peu de la même façon. Abraham, voilà, va dire à sa femme, etc. Tu diras que tu es ma sœur. Et regardez, regardez avec moi au chapitre 20. Au chapitre 20 et au verset 17. Abraham prie à Dieu. Et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Là encore, quand ils étaient arrivés dans la région d'Abimélec, Abraham avait dit à sa femme de dire la même chose. Et, mais, Dieu soit béni. Dieu, alors Abimélec avait pris Sarah, mais Dieu s'était révélé en songe à Abimélec, lui disant que ce n'était pas bien, etc., ce qu'il avait fait. Mais Abimélec a dit à Dieu, mais moi j'ai agi de façon pure, je ne savais pas que c'était sa femme. Il avait dit que c'était sa sœur, et Dieu veut lui dire, oui, c'est vrai, tu as agi avec pureté, etc., mais justement, vu que je ne veux pas que tu aies du mal, il faut que tu lui rendes sa femme. Et là, on voit que, avec cela, les femmes avaient été frappées de stérilité. Mais au verset 17, il dit que Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Là, après avoir été en malédiction, on voit que là, Abraham, là, est en bénédiction. Il prie Dieu, et Dieu guérit Abimélec et les femmes, et elles purent enfanter. Tu seras une source de bénédiction. Et on voit Abraham vraiment, comment il était en bénédiction, notamment dans l'intercession. On le voit, vous connaissez l'histoire de Lot, etc. Et cet échange d'Abraham avec Dieu, Dieu qui veut détruire, et Abraham qui lui dit, mais s'il y a 50 justes, etc., il intercède, parce qu'il y a l'homme et sa famille, et comment ils vont être sauvés par l'intercession d'Abraham, et comment là il était en bénédiction. Vous savez, on peut être en bénédiction par notre intercession, en priant, par notre prière, pour peu importe les personnes, ils sont proches ou éloignés, mais par notre intercession, en priant pour eux, il y a des choses qui peuvent se passer. Ça, je le crois intimement. Ils seront bénis en toi, disait Dieu à Abraham. Ils seront bénis en toi. Ou, c'était traduit aussi, ou ils seront bénis à travers toi. Avez-vous conscience, ce matin, frère et soeur, que Dieu peut et veut se servir de vous pour bénir les autres. Ils seront bénis au travers toi, au travers de tes paroles, et on le verra plus tard, au travers de ton attitude, au travers de ta vie. Tu seras un moyen, un canal par lequel je répandrai ma bénédiction. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ah oui, il y a des volontaires pour être des canaux de bénédiction. Vous savez, cet appel à être en bénédiction est pour chacun. Il est pour chacun. Regardez avec moi dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Est-ce qu'on pourrait dire, ah mais c'était, oui, c'était Abraham qui s'est adressé. Oui, cette promesse là particulière, c'était à Abraham. Mais le fait d'être en bénédiction aux autres, vous allez voir que c'est une adresse à chacun. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On va le relire. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et là, à qui est-ce que l'apôtre Pierre s'adresse? Il s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des chrétiens. Et il leur dit, bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Moi, je traduis avec mes mots, ne rendez point mal pour mal, ou un jour pour un jour, mais soyez au contraire en bénédiction. Bénissez. Et on voit que c'est pas une suggestion. On voit que c'est un ordre. Bénissez. Mais on voit qu'il y a une suite à cela. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. On sait tous ce que c'est qu'un héritage. Un héritage, c'est du coup, c'est quelque chose qui nous revient, bon, souvent suite à la mort, à un décès, etc. Et voilà, cette part qui nous revient, ça nous revient, l'héritage. Afin que, c'est ça, bénissez, soyez en bénédiction, afin que aussi la bénédiction vous revienne, afin d'être vous-même béni, mon frère, ma sœur. Si tu veux être béni, si je veux être béni, il faut que je bénisse les autres aussi. Et comprenons-nous bien que ce n'est pas méritoire. Ce n'est pas méritoire. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça pour être béni. Je le fais de cœur parce que juste avant, l'apôtre Pierre parle des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, etc. Je le fais parce que j'aime les autres, etc. Mais la Bible dit que il y a là un principe spirituel. C'est une loi qui est inscrite dans les ce quand je bénis les autres, eh ben je suis béni en retour. Bénir, la définition de ça, la bénédiction est définie comme un bienfait accordé à quelqu'un. Vous avez vu hein, dans le mot bienfait, il y a le mot bien. Et je me suis dit, tiens, oui, bénir aussi les autres, faire du bien aux autres. Et il y a dans la parole de Dieu un homme qui aimait faire du bien, c'est David. Il y a plusieurs mentions là de David, voilà, voulant faire du bien, etc. Et il y en a une qui m'a parlé, c'est dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel au chapitre 9. 2 Samuel au chapitre 9. Et dès le verset premier, il nous est dit ceci. 2 Samuel, chapitre 9, verset premier. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Reste-t-il quelqu'un de sa maison pour que je lui fasse du bien ? Et là, David là voulait être en bénédiction à quelqu'un de la famille de Jonathan. Alors il va poser la question, on va lui dire oui, il reste un homme, il reste Mephibosheth, un homme qui est perclus des pieds, il reste lui. Alors David va demander à ce qu'on le fasse venir. Et alors qu'ils vont faire venir Mephibosheth, eh ben David va lui dire que je vais te rendre toutes les terres qui ont appartenu à ton grand-père, et puis tu mangeras tous les jours à ma table. Et là, Mephibosheth, vraiment, je me suis dit, il devrait être vraiment étonné, parce que à l'époque, si on faisait ça, c'était certainement pour le tuer, parce que on tuait les descendants, etc., du roi qui avait été précédent, tout cela. Bon, et là, il vient et il est béni. On lui rend les terres de son grand-père. Il va manger tous les jours à la table. Et c'était pas rien. Hein. Et même aujourd'hui, ce serait pas rien. Manger tous les jours à la table d'un roi. Comment David a été en bénédiction pour lui. Alors là, j'entends tout de suite, je peux entendre dire, ah, mais David, on n'est pas tous rois. On n'est pas tous rois. Et c'est vrai, David était roi. Hein. On n'est pas tous rois. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être roi nécessairement pour être en bénédiction à quelqu'un. J'ai été interpellé dernièrement là, ben vous savez, c'était la période de Noël là, et puis je voyais à la télé, je ne sais plus si c'était au journal, et dans une région là de France, une action qui avait été menée par une association en faveur des personnes seules là pour Noël. Et ils montraient à la télé donc des personnes bénévoles qui avaient voulu faire quelque chose et donc ils débarquaient chez les personnes seules, et puis on les voyait rentrer avec un panier là avec toutes sortes de choses, n'est-ce pas, d'aliments, de choses pour festoyer et tout cela. Puis ils rentraient et puis ils passaient là le Noël avec ces personnes là et je regardais ça et en moi-même j'étais touché. J'étais touché, je me suis dit ça, et ben en faisant ça, ils ont fait du bien. Ils ont fait du bien et ça c'est pas qu'à la télé hein, c'est hier, j'ai appris j'ai appris une famille, sachant que qu'une de leurs connaissances, quelqu'un allait passer Noël tout seul, il le savait. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont pris avec eux pour réveillonner. Mais je lui dis, mais vous voyez, il y a pas besoin de choses incroyables pour bénir les autres, pour bénir quelqu'un, être en bénédiction pour celui, celle qui est dans le besoin ou qui est seul. Ou souvent on pense qu'être en bénédiction, alors ce serait une question financière, on est là, ça peut, mais si notre vision ça se limite à cela, alors notre vision elle est restreinte. Et il faut alors qu'elle a besoin qu'elle s'ouvre sur de plus larges horizons. Bénir les autres, on va le voir, ça recoupe tellement de choses. Restons sur David. David, un jour, a été appelé auprès de Saül, là, parce que Saül était agité par un mauvais esprit. Et alors, on a fait venir David. David jouait d'un instrument. Oui? Lequel? La harpe. Et la Bible nous dit que quoi? Que lorsque David commençait à jouer, Saül était apaisé. Lorsque David jouait de son instrument, Saül était apaisé. Là, on voit encore là comment on peut être en bénédiction. Un autre aspect, par exemple, d'être en bénédiction. Vous savez, c'est formidable. Quand on joue un instrument, eh ben, la personne est bénie. Être en bénédiction à quelqu'un qui va mal. Parce que quand il était agité, Saül était mal. On connaît des gens qui sont mal. Être en bénédiction à quelqu'un qui broie du noir, à quelqu'un qui déprime, etc. Être en bénédiction. Des fois, vous savez, des fois, ce sera une écoute. Eh oui. Des fois, ce sera une écoute. Des fois, ce sera une présence. Une présence. Et ça m'a rappelé un témoignage lorsque on était à l'école biblique. Vous savez, on fait des voyages sur les églises qui nous invitent et donc on va, on se déplace et puis on est les étudiants, on est logés chez les chrétiens. Et un jour, donc on a fait un voyage, je me rappelle plus dans quelle ville c'était. Moi, je me rappelle que moi j'avais pas fait ce voyage-là parce qu'il fallait souvent que des étudiants restent au château pour garder le château. Alors c'est au retour, les étudiants, bah vous savez, il y a les retours, il y a les témoignages, etc., de ce qu'ils ont vécu. Et en parlant, j'ai appris un témoignage et ça m'a marqué jusqu'à ce jour. Il y a une des étudiantes, lorsqu'elle est arrivée chez sa logeuse là, et donc le soir, elle est venue aller se moucher, et puis elle a cassé le pommeau de douche. Elle arrive chez la logeuse, vous avez, voilà, c'est pareil, hein, quand on allait chez les gens, on dit, ouais, on va pouvoir apporter quelque chose, être en bénédiction, on va partager. Oh, elle arrive et elle casse le pommeau de douche de la croyante. Et là, elle est là, en plus c'était une fille qui était sensible, alors elle s'évonde, elle pleure, oh là là, chez les gens, je casse les choses, etc. Et le matin, elle a laissé passer la nuit, et puis elle s'est dit, bon, le matin, faudra que je lui dise, etc., tout ça. Le matin, elle arrive, petit déjeuner. Et puis, elle vient, et puis elle partage avec la croyante, avec sa logeuse. Et là, la logeuse lui dit, vous savez, je souffre d'insomnie, et elle lui dit, hein, à l'étudiante là, elle lui dit, vous savez, depuis que vous êtes arrivée, c'est la première fois que je redors depuis très très longtemps. Elle lui dit, j'ai noté parce que ça m'avait marqué, elle dit, j'ai dormi comme un bébé. Et là, l'étudiante, elle était heureuse et elle dit, oh là là. Et derrière, il faut que je lui dise que je lui ai cassé son bon mot. Et de là, elle lui dit, voilà, et la sœur dit, mais c'est pas grave, c'est rien, etc. Tout ça. Sa présence a amené la bénédiction. Depuis des années, la sœur n'arrivait plus bien à dormir le soir. Et elle, en arrivant là, elle ne savait pas. Et de nouveau, la sœur a pu dormir. Ça, c'est la bénédiction de qui vient là. Et je crois que on peut apporter la bénédiction. Et là où nous nous trouvons. Et on a l'exemple flagrant avec Joseph dans Genèse au chapitre 39. Genèse chapitre 39. Vous connaissez bien l'histoire. Joseph a été vendu par ses frères et acheté par Potiphar comme esclave, n'est-ce pas? Et là, Genèse chapitre 39, verset 1er, il nous est dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité ou la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Regarde verset 5, hein, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'est bien marqué, hein, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Le principe que je vous disais, qu'il est possible, c'est la bénédiction sur le lieu où nous nous trouvons. Potiphar ne tarde pas à remarquer que tout ce que Joseph entreprend est couronné de succès. Que va-t-il faire? Ni une, ni deux. Il va l'employer à son service et lui confier tout ce qu'il possède. Mais oui, moi j'aurais été à sa place, certainement j'aurais fait la même chose. Et verset 5, dès que Potiphar lui établit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Vous savez, là, par rapport à cela, il y avait quelque chose de marquant, de flagrant. La bénédiction va venir sur tout ce qui appartenait à Potiphar, soit au champ, soit à la maison. Soit au champ, certainement, il y avait le bétail, les choses comme ça. Et alors, certainement qu'il a dû y avoir multiplication du bétail, etc. Et puis, à la maison, tout ce qui était fait, ça devait aussi prendre certainement de l'ampleur et tout ça. La bénédiction était là. Ça aussi, je crois pleinement à ça. Et Joseph a été en bénédiction pour Potiphar et pour ses affaires. Pour ses affaires. Être en bénédiction pour son entreprise ou pour son employeur. J'ose le dire. T'as dit comment? Oui, être en bénédiction pour mon employeur. Et des réactions pas ici bien sûr. Mais quoi, être en bénédiction? Ah non, jamais de la vie. Vu comment il me paye, il faut voir toutes les heures que je fais. Avec les bénéfices qu'ils font, ce serait à eux d'être en bénédiction pour moi. Oh Seigneur, que je puisse être en bénédiction sur le lieu dans lequel je me trouve. Et sur mon lieu de travail, que je puisse être en bénédiction pour les autres. Je vous donne un témoignage d'un jeune chrétien, travaillant dans le milieu, il était dans le milieu hospitalier, et à un moment donné, je pense aussi, c'est comme ça aussi dans plusieurs autres branches, il va y avoir des évaluations faites par la cadre, et donc lui aussi ne va pas y couper, et convoqué donc dans le bureau de la cadre avec tout le descriptif, n'est-ce pas, avec assiduité, ponctualité, etc., relations, tout, et avec les notations. Et donc il arrive là et puis elle commence à lui faire le détail. Il raconte ce jeune et là elle lui dit voilà sur telle chose, voilà combien elle a mis, etc., les appréciations, tout cela. Et à la fin de cela, il y a une conclusion et il y a le mot de la cadre. Et le mot de la cadre, le concernant, c'était ceci. J'ai noté, c'est en parlant de lui, c'est le rayon de soleil du service. Certains diront, oh oui, il l'a dit, non, je l'ai vu. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu ça. C'était noté le concernant, c'est le rayon de soleil du service. Ce jeune était en bénédiction dans son service. C'est une réalité. Et que je sois, alors que 2016 arrive, Seigneur, que je sois en bénédiction dans mon service, ou Seigneur mon Dieu, sur dans mon entreprise, que je sois en bénédiction dans ma famille, que je sois en bénédiction dans mon quartier, Seigneur, dans mon église, que je sois en bénédiction. Vous avez remarqué quel terme il utilise quand il parle à Abraham, le Seigneur, il lui dira, tu seras une quoi de bénédiction? Une source. Une source. Une source, on vient pour puiser à la source. On vient pour boire à la source. Alors imaginez que la source soit polluée. Qu'est-ce qui se passe? Soit maladie ou voire la mort. Et on va voir spirituellement les choses. Et ça nous parle aussi que si je veux être en bénédiction pour les autres, il est indispensable que la source soit saine. Jacques chapitre 3 et verset 8. Jacques chapitre 3 verset 8. Le chapitre 3 de Jacques est vraiment un chapitre très 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 intéressant. Oui, là, il parle de la langue, n'est-ce pas? Mais on va pas tout voir, mais ce qui va nous intéresser là, à partir du verset 8, Jacques chapitre 3, verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source, il utilise le mot, la source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Il parle de la langue et il dit par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. Quand nous bénissons le Seigneur, nous parlons de tout ce qui est bien, nous parlons pour lui faire plaisir, nous parlons de sa gloire et pour sa gloire. Et quand nous maudissons les autres, parce que c'est ce qu'il parle, Jacques, bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes. Quand nous maudissons les autres, nous parlons de tout ce qui est mauvais, nous parlons le mal, nous parlons pour les détruire. Comment faisons-nous cela? C'est très simple. Il y a des exemples très concrets. Et vous savez, chacun et moi le premier, il faut qu'on veille sur cela. Des choses où on peut dire, chanter le Seigneur, on peut chanter le Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique, digne de louange. Tous les chants qu'on chante, n'est-ce pas, on exalte le Seigneur, etc. Par cette même bouche, par ma bouche, je dis ça. Et par notre bouche, on dira, et puis, quelques temps après, on dit, oh là là, oh, t'as vu celle-là, etc., comment, elle est, et ceci, par la même bouche, vous avez vu? Les choses qui peuvent sortir de notre bouche, toutes sortes de choses qui sont pas bonnes. Mais Seigneur, en 2016, Seigneur, je veux que de ma bouche, Seigneur, sorte la bénédiction. Et il dira, Jacques, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parce que aussi, nos paroles aussi, font état de ce que nous sommes. Et étant en Christ, il faut que nos paroles soient, c'est des paroles à l'image aussi du Seigneur. Verset 11, il dira, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Bien sûr que non, on le sait, soit l'eau qui sort, soit elle est douce, soit elle est amère. Jacques nous dit que nos paroles peuvent soit être douces, des paroles qui encouragent, des paroles qui apaisent, des paroles qui fortifient, des paroles qui apportent la guérison, ou des paroles amères. C'est des paroles dures, des paroles qui cassent les autres, des paroles qui blessent, etc., les calomnies, il dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce, bien sûr. Et ces images sont là pour nous montrer combien notre attitude elle est anormale en fait. Quand nous bénissons le Seigneur, on dit des choses magnifiques, comme dit le psalmiste, des paroles de charme sortent de mon cœur. Et puis après, et des paroles qui peuvent être tellement dures. Il dit en fait que c'est anormal. Alors, c'est comme s'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est bénir ou maudire. Bénir ou maudire. Il faut choisir. Vous savez aussi bénir. Bénir à la base, hein, à la toute base, bénir, ça veut dire du bien. Dire du bien. Et là aussi, alors que 2016 arrive, Seigneur, je ne veux pas maudire, mais je veux bénir. Je veux bénir. Et pour conclure, on a lu dans Zacharie en introduction. J'aimerais vous inviter à ce qu'on retourne dans Zacharie, là au chapitre 8. Ce sera un verset de conclusion. Zacharie, chapitre 8, et le verset 13. Zacharie, chapitre 8, verset 13. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Vous avez remarqué, on s'est attardé là, durant le message, sur le fait que vous serez en bénédiction. Vous avez vu ce que Dieu dit juste avant ça? Il dit, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Vous connaissez certainement l'armée du salut. L'armée du salut qui a œuvré longtemps et qui œuvre encore sous l'impulsion de William Booth dans le Royaume-Uni. Et leur slogan, leur devise même, c'était sauver pour servir. Pour regarder, faire les recherches, leur devise à l'armée du salut, c'était ça. Ils avaient pour eux l'intérêt qu'ils avaient été sauvés pour servir. C'est d'ailleurs l'armée du salut qui a commencé toutes ces œuvres de la soupe, n'est-ce pas? La soupe pour les gens de la rue, etc. Tout cela. Et c'était leur devise, sauver pour servir. Et moi, en lisant cela hier, en reméditant, et quand Dieu dit je vous sauverai et vous serez en bénédiction. L'armée du salut, ils avaient raison de dire ça, c'est une réalité. Mais il y a autre chose qui m'est venue, moi, là, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Sauver pour servir, mais aussi sauver pour bénir. Amen, le frère, il m'a devancé. Sauvé pour bénir. Alléluia. Et que le Seigneur, en cette fin d'année et en ce début d'année qui viendra, que nous soyons notre devise. Sauvé pour bénir les autres. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut courber nos têtes quelques instants? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Ta parole, elle est tellement extraordinaire. Elle est riche, elle est profonde, ta parole. Elle nous enseigne, Seigneur mon Dieu. Elle nous éclaire. Elle nous montre la voie à suivre, l'attitude à adopter, Seigneur. Viens nous aider. Viens, Seigneur mon Dieu, à notre secours. Accompagne-nous, Seigneur. Que de nos mots, Seigneur mon Dieu, sorte la bénédiction et non la malédiction. Alors que 2016 arrive, Seigneur mon Dieu, que nous puissions être en bénédiction pour Dieu, parce que c'est ton désir, c'est ton souhait, Seigneur mon Dieu. Et tu feras tout, Seigneur, pour que nous le soyons. Tu créeras les circonstances, tu créeras les occasions afin qu'on puisse bénir quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je te bénis déjà d'avance, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu vas faire. L'avenir, nous ne le voyons pas, toi seul le connais, mais je te bénis pour ce que tu vas faire avec chacun. Comment tu vas te servir de chacun, Seigneur mon Dieu, en 2016, mon Dieu. Et que alors que la parole était annoncée, puissions la serrer dans notre cœur. Et Seigneur mon Dieu, oui, une prière que nous puissions faire monter, que je sois en bénédiction, Seigneur mon Dieu, lors de cette année, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu. Rends mon cœur sensible, Seigneur mon Dieu. On nous tient au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avance, parce que tu vas réjouir le cœur de chacun. Parce que quand on bénit les autres, on est heureux, Seigneur. Alléluia. Alors qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et merci Merci pour ce culte. Merci pour ce dernier culte de l'année 2015. Seigneur mon Dieu, nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur mon Dieu. Et ensemble, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et peut-être, là, peut-être, on peut prendre un temps, là. Nous sommes dans le recueillement. Peut-être, il y a des voix qui veulent s'élever, des gens qui veulent prier, bénir le Seigneur. Qu'on puisse, on ait la liberté de le faire, alléluia, pour ce, là encore, ce culte d'adoration. Oh, Jésus, sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu.